ça arrive, voilà, installez-vous. Donc là, ben, vous venez de voir le film, donc on va pouvoir échanger à la fois avec les invités et puis vous-même. On va se présenter en sachant que TV Bruit filme une partie aussi des échanges, merci à TV Bruit, que Canal Sud est présent, merci à Canal Sud. Voilà, pour se faire l'écho de ce rendez-vous. Ah ben, t'as rajouté de vous, bon, d'accord. Voilà. Hop. Bon, une petite introduction donc sur ce film, Une affaire de principe, en présence donc du réalisateur Antoine Rimbaud. Merci d'être ici et remerciements aussi à l'Utopia Borde Rouge. Donc on s'est présenté tout à l'heure, mais pour ceux qui seraient arrivés plus tard, nous sommes journalistes sur Radio FMR et on anime une émission Alter qui traite des questions de société et des enjeux environnementaux et écologiques. Et donc ce temps sera retransmis en format d'émission. Et c'est vous donc qui allez constituer la matière, en grande partie. Antoine Rimbaud, bien bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes au sein d'une tournée qui n'est pas terminée encore, pour les avant-premières de cette sortie de film. Bon, dans votre parcours, vous avez travaillé comme monteur, un parcours dans des étapes au cinéma différentes. Et vous avez réalisé 4 courts-métrages et 2 longs-métrages. Le premier, c'était aussi quelque chose qui concernait Toulouse, puisque c'était le procès Viguier. Et donc, ça a été présenté, c'était une intime conviction en 2019. Voilà. Et aujourd'hui, en 2024, une affaire de principe. Donc un film catégorie drame, genre thriller, hein, et qui s'est largement inspiré du livre de José Bové qui est à vos côtés. Pour parler donc de cette question des lobbies, enfin, on va échanger davantage là-dessus. Tiré de faits réels, dialogue fictif, hein. On peut en reparler aussi, et sorti le 1er mai en salle. Voilà. On va peut-être laisser présenter aussi José Bové qui est là avec nous. Bonjour, et
bonjour.
Merci d'être là au fil de cette tournée. Et puis je ne sais pas du tout là. Bonjour.
Jean-Marc Défi, ancien assistant de l'assisté Bové.
Voilà.
Qui est donc dans le film l'inspiration du personnage de Fabrice, joué par Thomas Bébé.
Voilà, c'est cela. En sachant que le personnage de José Bové est incarné par Bouli, la nurse, hein, qui a marqué pas mal des esprits. Et puis on parlera sûrement beaucoup de Céleste Brunkel aussi, la jeune stagiaire qui elle aussi a sa part donc dans cette histoire qui est partie prenante. Mais je vais laisser Dominique Burdin présenter José Bové, son parcours, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore.
Ouais, c'est très ambitieux de vouloir présenter José Bové, mais bon, on va quand même dire que José était militant pacifiste, qu'il a été objecteur de conscience, insoumis, déserteur, que ça a été l'occasion pour lui de partir dans les Pyrénées et de s'installer comme berger. Et puis, avec la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac, il se retrouve à squatter une ferme sur le Larzac à Montredon. Et cette lutte se termine en 81 par une victoire. 81, c'est l'élection de François Mitterrand. Dans la suite de ses aventures, José Bové et avec les paysans travailleurs, fonde les paysans travailleurs, puis par la suite la Confédération paysanne dans ses engagements syndicaux agricoles. On le retrouve dans la lutte contre l'OMC en 94, l'OMC qui succède au GATT et qui sont des organismes sur la mondialisation du commerce et la libre circulation des marchandises avec tous les méfaits que l'on connaît. On le retrouve dans la lutte contre la PAC, la politique agricole commune. On le voit sur un bateau avec Greenpeace, qui dans le cadre de la lutte contre les essais nucléaires français à Mururoa. En tant qu'altermondialiste, il est cofondateur d'ATTAC, donc pour les taxations des transactions et dans le cadre des actions citoyennes. En 99, un fait remarquable, c'est le démontage de McDo, mais c'est aussi les actions anti-OGM avec la CIRAD. C'est l'occasion pour lui d'aller à Seattle, d'aller à Rio au niveau du Forum social mondial, d'aller au G8 à Gênes, on le croise aussi à Bamako, et automatiquement, quand on commence à être un peu sur le devant de la scène, eh bien José prend des engagements politiques. Il est candidat à la présidentielle en 2007, aux européennes en 2009, et c'est là qu'on le retrouve élu comme conseiller européen, réélu en 2014 jusqu'en 2019. Et là, bon, pendant toute cette période, il fait partie d'un certain nombre de luttes. Donc on a la lutte là contre le tabac. Il y a la question de la fracturation hydraulique qui est aussi importante dans les combats qu'il a menés. En 2021, après avoir pris sa retraite de parlementaire, on le retrouve soutien de Carole Delga pour le PS. Et en 2022, il s'engage contre la NUPES. On va parler peut-être d'abord du film et puis après on discutera un peu.
Voilà, au fil des... Alors, oui, ce film, alors, il fait quand même écho à votre premier long métrage, dans le sens où il y a une histoire avec la justice, avec un procès. Vous affectionnez beaucoup ce thème de la justice et du droit aussi, et c'est quelque chose qui se retrouve forcément dans ce film. Et effectivement, il y a un suspense, il y a une enquête, comme vous avez pu le voir, il y a un rythme soutenu dès le départ qui rend les choses forcément captivantes. Et au-delà des protagonistes du film, des individus, il y a dès le départ une entité énorme, c'est le bâtiment, c'est le Parlement européen. C'est ce bâtiment-là qui incarne aussi une architecture bien particulière, presque futuriste, très glaciale, des grands couloirs vides pour la plupart. Vous avez souhaité filmer ces lieux vides, avec des nuances de gris de partout, très peu de couleurs. Ça fait une grosse machine qui impressionne. Et le film alterne entre des gros plans des personnages et des situations et ses perspectives sur ces architectures, des visions de nuit de Bruxelles à la Wim Wenders. Il y a toute une esthétique, il me semble, que vous avez déployée aussi. Par rapport à cela, une machine à broyer l'humain, un maillage de bureaux, on voit très bien un petit peu la sinuosité des choses, hein, je pense que vous l'avez capté comme tel, et puis cette fameuse activité de député européen, cette activité au sein du Parlement. On a l'impression qu'il y a que vous êtes sans arrêt avec des valises, mais ça sera peut-être qu'une question pour José Bové et son assistant, c'est-à-dire c'est vraiment des voyages incessants, des allers-retours, donc le film relate bien, il me semble, cette tension entre les différents lieux dans lesquels les assistants se rendent. Et puis après, toutes les manigances, toute la bureaucratie qui se déploie au sein de... vous dites dans le film, il est dit, le problème, ce n'est pas les institutions, c'est ceux qui les font, par exemple. Il y a plusieurs territoires, effectivement. Et puis, il y a un personnage qui est conducteur, c'est cette fameuse stagiaire. On sent qu'elle est là, qu'elle arrive et qu'elle va apporter quelque chose. J'imagine que c'est un personnage de fiction par rapport, vu que le film a été tiré du livre. Et ce personnage de stagiaire, j'avais envie de vous interroger dessus parce qu'il est, c'est une figure idéaliste. Elle a la niaque, elle a la jeunesse et elle veut que les choses aboutissent. Elle a une quête de vérité et de justice. Et on a le sentiment, à un moment donné, qu'elle réactive des énergies qui peut-être s'étaient épuisées à force, s'étaient découragées. Bon, là, c'est aussi José Bové qui pourra répondre à cela. Et c'est une belle figure qui, finalement, arrivera à déclencher la victoire de cette lutte. Et le fait que ce soit une jeune, le fait que ce soit une femme, et cette quête de vérité, de justice, c'est quelque chose qui est récurrent chez vous, dans votre travail, dans les choix des films, hein, des contenus.
Ouais, c'est le deuxième, donc oui, peut-être qu'effectivement on peut s'amuser à regarder ça. Évidemment, moi, quand je me lance dans ce film-là, je ne me dis pas que ça va ressembler au premier, mais vous avez peut-être raison. Oui, l'endroit de la fiction, c'est effectivement le personnage de Clémence. Enfin, c'est plein de choses. Moi, j'ai l'impression que j'ai la même méthodologie que le premier film. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai de faire ça. Effectivement, je pars du réel. Et j'ai l'impression que le film est fini quand je ne sais plus exactement moi-même ce qui vient du réel et ce qui est de la fiction. Mais en tout cas, ce personnage de Clémence, même si José et Jean-Marc ont eu des stagiaires et une assistante qui a été importante dans ces années-là, qui s'appelait Anne, mais que je n'ai pas rencontrée, donc il y a quelque part un peu une Clémence dans le réel, mais c'était notre endroit de travail, cette idée qu'on allait raconter cette histoire avec trois générations, et cette idée du découragement, du renoncement quoi, qui rôde, et en même temps on montre bien que ce sont des personnages qui ne renoncent jamais, c'est ça que le film essaye de raconter, et cette idée que Clémence arrive, elle est très utile, elle est moi en fait, hein, parce que quand j'arrive au Parlement, je n'y connais rien du tout et je vais apprendre plein de choses, je n'ai pas les codes, je ne suis pas l'assistant, je suis celui qui vient raconter l'histoire, et elle est, je pense, évidente pour le spectateur, parce que on se glisse dans ses pas et on se pose les questions qu'elle se pose et elle nous guide. Et puis elle fait son apprentissage. Je me suis intéressé à observer la justice sur le premier film dans ses dysfonctionnements. Là, effectivement, le point commun, c'est d'observer ces institutions européennes à un endroit de dysfonctionnement avec des personnages qui portent des valeurs. Voilà. Et c'est ces valeurs qui triomphent. C'est le droit qui triomphe dans l'hémicycle à la fin du film. Et ce qui m'intéressait là, dans le cheminement du travail, c'était après la justice, intéressons-nous au droit. Voilà. Et quelle est la différence entre les deux? Et c'est l'apprentissage que fait ce personnage de Clémence. Et effectivement, au fil de l'enquête, pour plein de raisons, mais essentiellement parce qu'il y a plein d'autres dossiers, plein d'autres combats, et le personnage de José dit bien, lui explique qu'il faut savoir choisir ses batailles, mais peut-être elle est un peu naïve, mais elle veut la justice, ça lui suffit pas le droit. Ça lui suffit pas d'avoir contribué à faire un peu bouger les lignes, ça lui suffit pas. Et donc c'est elle qui va toquer à leur porte et relancer toute cette affaire. Ça avait du sens pour moi. Et ça raconte effectivement, cette affaire, elle s'étale sur un an et demi. Donc évidemment, pendant un an et demi, on laisse un peu de côté, et puis on ne sait pas par quel bout tirer. Je dis « on » parce que je me suis identifié à eux, ouais. Mais j'ai pas mené l'enquête. Et donc voilà, c'était une façon de raconter ça, quoi. Comment il est facile de mettre de côté, puis finalement de repartir. Et c'est très dur au cinéma de raconter le temps long, de raconter le découragement, l'épuisement, donc c'était intéressant d'avoir trois personnages, quoi. Et le personnage de Fabrice, qui est donc librement inspiré du travail de Jean-Marc, mais il y a du cinéma là encore, quand on commence l'histoire, il n'en peut plus, il dit c'est épuisant de travailler avec José, puis les résultats sont trop minces, moi je raccroche, quoi.
Oui,
et puis finalement, il va être un peu secoué par un autre personnage féminin qui dit qu'il faut qu'il retrouve sa colère,
oui.
Et puis aussi par Clémence, et puis moi en fait je suis d'une génération un peu désillusionnée, je me retrouve un peu en peine dans l'isoloir, à voter toujours contre. Et quand je rencontre José et Jean-Marc et d'autres au Parlement et que je m'intéresse à cette affaire et que je m'intéresse surtout aux institutions européennes que je connais très mal, comme vous, j'imagine, il y a un grand malentendu, hein, entre l'opinion publique et l'Europe. On parle toujours de Bruxelles, où on entend parfois dans nos échanges avec le public, l'instance européenne, en fait, c'est des institutions, c'est très important. Et donc quand je me penche là-dessus et que je gratte et que je les écoute, ça a revitalisé ma croyance dans le politique. Et c'est ça que j'essaye de raconter à travers la fiction et à travers ce rapport entre les personnages. Clémence, elle est revitalisée dans sa croyance dans le politique à la fin. Et le film essaye de porter, à travers cette affaire, un peu d'optimisme et de croyance. Voilà, c'est là qu'on va.
José Bové, justement, votre ressenti, tous les deux, sur ce film. Et bon, vous avez travaillé de concert, puisqu'il est venu, il a fait son travail. Votre ressenti sur ce film, et par rapport à ce que vous avez vécu, et par rapport à cette affaire, et qu'est-ce que vous pensez du résultat, finalement?
Il y a un truc bizarre dans le film.
D'accord.
Vraiment très bizarre, c'est de se voir.
Ah oui, vous êtes mis en vrai.
Ça, c'est curieux. Il y a votre nom, vous êtes tout à fait bien en vie, et en même temps, on a l'impression, voilà, qu'on est déjà dans la tombe, et qu'il y a un film qui est fait, parce que c'est plutôt globalement les gens déjà qui sont souvent décédés, qui sont là, mais bon, c'est comme ça. C'est cette confrontation, et puis de se défendre, ou de débattre, avec quelqu'un qui vous représente.
Vous auriez aimé incarner le personnage?
Pas du tout, au contraire.
Bon, d'accord, ça c'est posé.
Surtout pas.
Surtout pas,
mais, non, ça, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose de... C'est une expérience qui est quand même, somme toute, assez rare. Hein, parce qu'on n'a pas tous vocation à se retrouver comme ça sur l'écran, quoi. Bon, et voilà, mais ça c'est personnel.
Ouais.
Sinon, le film, je fais la tournée. Donc c'est peut-être déjà une indication sur ma façon de penser comment ce film... peut être inspirant et pour moi je pense que ce qu'a fait Antoine d'abord est très respectueux des personnes et il est arrivé à sublimer un peu des histoires longues et en se concentrant uniquement sur une histoire parce que au moment où ces faits se déroulent on est sur plusieurs dossiers à la fois. On ne l'a pas fait exprès, mais on a un traité de libre-échange, on a le gaz de schiste dans toute l'Europe qui pointe son nez, on a les OGM qui continuent, la PAC qui a démarré en 2009, donc on est en plein dedans aussi. Donc on a tout en même temps. Et donc ça, c'est compliqué. Donc ce n'est pas possible. Donc il faut prendre un événement, sinon on n'aurait rien compris. On se serait dit, ça y est, qu'est-ce qu'on est en train de voir, quoi. Donc ça, c'est, je dirais que c'est très fort parce qu'il permet aussi cette confrontation, il a raison par rapport au droit. Et je dirais que c'est un film sur le droit constitutionnel. Alors là, je vais un peu loin peut-être, mais c'est quand même comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'on démontre, on parle d'institutions qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète, sur un montage politique qui est quand même très singulier, parce qu'il n'y a pas de pouvoir central, et donc il y a plein de lieux de pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir central. Et c'est une structure qui évolue en fonction des batailles aussi. C'est-à-dire que la démocratie avance parce qu'il y a des batailles. Aujourd'hui, il y a un médiateur européen, on essaye sur la transparence d'avancer, donc ça se construit aussi. Puis au fur et à mesure des crises, les mécanismes peuvent changer, donc on est sur une évolution d'une structure. Alors, l'autre jour, j'ai eu cette formule un peu bizarre. Je dis que l'Europe, c'est un peu comme le trou noir. Ça s'agrandit tout le temps. Ça se densifie. C'est très dense, un trou noir. Ben, c'est un peu ça aujourd'hui. Et donc, ça fait peur à tous les empires qui existent. Les empires n'aiment pas l'Union européenne. Et ils ont raison, tant mieux. Les Chinois n'aiment pas du tout. Les Russes, encore moins. Et les Américains sont méfiés depuis le début, même avant que ça existe. Donc, c'est bon signe. Je dirais que ça, c'est sympathique. Donc, c'est quelque chose qui est à défendre, et c'est surtout le seul lieu démocratique qu'on a sur un espace aussi vaste, où tout le monde est élu à la proportionnelle, et donc, chaque voix compte quand on va voter pour le Parlement européen. C'est pas rien, quoi.
Ouais.
C'est pas rien, voilà. Et Jean-Marc a plein d'autres histoires.
Ah ouais.
Moi, je suis d'accord avec José.
Non, mais, et surtout, la question à lui poser, c'est... Tu viens de voir le film pour la première fois.
Eh ben,
et quoi?
Voilà.
Merci.
Merci. Je suis très estomaqué de voir la capacité qu'Antoine a eue de créer une narration. Comme tu le dis, c'est plus d'un an et demi pratiquement d'enquête. Hein, donc, faire quelque chose de dense, moi, je suis épaté, je suis... j'avais déjà vu des bouts, hein, donc c'est pas une surprise. Je connaissais l'histoire aussi, je vous rassure. Hein, donc, ce qui était très important pour moi quand on s'est rencontrés la première fois, c'est que c'était pas, il y avait pas la volonté d'Antoine, c'était de faire un film politique. Et non pas de... Parce qu'on pourrait faire un film contre l'Europe en disant les lobbies sont partout, c'est gangréné à peu près de partout. La volonté, c'était de faire passer un message, et ça, c'est... moi, c'est pour ça que j'étais très heureux d'être avec José au Parlement européen, mais également avant. C'est de dire qu'on peut faire des choses à l'endroit où on est. On a capacité à être actif, on a capacité à bouger. Et ce que ce film montre bien, c'est que il y a des périodes de découragement, parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément où on va, comment on avance. Mais il y a aussi cet espace qui existe dans la démocratie, je dirais, de perdre ou de gagner sur chaque lutte. Et j'ai été content d'accompagner José sur cette lutte-là et sur toutes les autres luttes que vous pouvez découvrir dans le livre « Hold up à Bruxelles ».
Alors, justement, vous parlez d'espace démocratique, et pourtant, dans le film, il y a un moment où on vous voit faire un geste de désobéissance civile. Vous récupérez un dossier, vous le jetez par une fenêtre. La notion de légitimité, de légalité, comment on s'accommode de gestes de ce type ?
On va demander à Antoine, parce que là, il nous a vengé sur ce coup-là.
Ah, vous l'avez pas fait.
C'est pas vrai. En gros, ce qui est vrai, c'est qu'il y a bien une reading room avec des slots d'une heure. C'est vrai. Vous m'entendez mieux, là ?
Ouais.
Donc, quand vous voulez avoir accès à ce type de document confidentiel protégé par le secret des affaires, il y a effectivement, dans cette novlangue, un slot d'une heure dans une reading room dans laquelle vous allez, après avoir vidé vos poches, vous signez un contrat de confidentialité qui vous engage sur plein de points et essentiellement de ne rien dire de ce que vous allez découvrir. Et quand le dossier arrive enfin, vous l'ouvrez et il est caviardé. Voilà, ça c'est le réel. Et donc José me raconte ça et puis il me dit « Moi j'étais sûr qu'il ne s'était pas marqué dans le contrat qu'on n'avait pas le droit de le jeter par la fenêtre. Donc on a eu envie de faire ça. Mais la fenêtre était fermée. » Et donc la fiction a vengé le réel. Voilà, parce qu'on peut faire ça. Et que c'est, à la fin, assez juste par rapport au nombre de trucs qu'a fait José, effectivement, de l'ordre de la désobéissance civile. Il en a fait bien d'autres. Voilà, et puis ça a occasionné aussi ce braquage de la commission, quoi, puisqu'on raconte le Parlement d'un côté, la commission de l'autre. Donc on a fait une scène de cinéma un peu ludique autour de ça, mais qui ressemble pas mal à plein de choses.
Et qui aurait surtout dû se passer, quoi. Et ça, j'aurais bien aimé voir, effectivement, quelles auraient été les conséquences, mais bon, il ne faut pas le savoir, quoi. Parce que, bon, on a une immunité de parlementaire, donc je pense que Barroso aurait été fou, quoi, si on avait fait. Mais bon, malheureusement, là-bas. On a eu d'autres expériences un peu similaires, mais qui sont, en fait, dans le film, qui ont été tournées, mais qui ne sont pas dans le film, quoi. Parce que ça aurait fait des choses en plus et c'était pas possible d'en rajouter, il fallait raccourcir. Et notamment une scène qui est une histoire vraie où en tant que député, on était intervenu à une dizaine de députés qui étaient tous d'anciens syndicalistes, salariés, étudiants ou autres. Et comme il y avait une grève de traducteurs et qu'ils avaient été réquisitionnés, donc ça ne servait à rien de faire grève, ça a duré pendant des mois et des mois sans que rien se passe. Donc, à leur demande, on a inventé une action et on a bloqué tout le centre des micros de l'Assemblée plénière, vous voyez, alors qu'il y avait le président de la commission, le conseil, tout ça. Et on a appuyé sur le bouton qui empêche tous les micros de parler, quoi. Et donc, il n'y a plus rien qui peut se passer dans l'hémicycle s'il n'y a pas les micros. Mais comme c'était une ouverture officielle, on les a bloqués plus d'une heure avec juste une revendication, réouvrez les négociations et faites en sorte qu'il y ait une sortie honorable, sinon on recommence. Et donc là, effectivement, on a gagné ça. Et après, on a été convoqués pour être punis, quoi. Et alors là, on avait tous quand même le sourire, qu'on avait la banane, tellement c'était idiot de nous condamner, donc ils étaient vexés comme des poux. Et ça a failli coûter à Antoine un problème, puisque à cause de ça, le directeur général, donc administratif du Parlement, secrétaire général, en fait, était tout à fait opposé au fait que le film puisse se dérouler au Parlement. Mais ça, c'est à toi de dire.
Ouais. La scène où vous vous êtes fait tirer les bretelles, on la retrouve un peu dans le film. J'adore cette scène quand Martin Schulz vient le voir en lui disant tu es bien conscient que tu vas être convoqué par le secrétaire général. Il répond oui. Voilà. Donc ça aussi, quelque part, c'est nourri par le réel. Et effectivement, le secrétaire général, depuis ce moment-là, est quand même un peu pris en grippe, José Bové. Et donc quand on va voir le Parlement, parce qu'on a tourné au Parlement européen, oui, à Bruxelles et à Strasbourg, ils nous ont ouvert leurs portes. Mais on m'a bien fait comprendre que le secrétaire général était hostile, évidemment, à un projet autour de cette affaire et de José Bové. Et puis, il a pris sa retraite. Et donc, on a réussi à se faufiler. Je crois qu'il a signé lui-même ce papier sans bien savoir ce que c'était, juste avant de prendre sa retraite. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Et on a tourné cette scène, effectivement, qu'on n'a pas réussi. Enfin, qu'on n'a pas monté, qu'on a choisi de pas mettre dans le film, où il bloque l'hémicycle. Et moi, je suis toujours un peu obsédé par les détails, le réel. Donc, on est rentré, nous, pour tourner cette scène dans les coulisses de l'hémicycle jusqu'à la console son du. Et on a rencontré les techniciens. Et donc, il y a un technicien qui me dit ah, mais j'étais là quand Bové a coupé le son. Alors, du coup, je le chope, je le suis partout, il m'explique. Et puis, je veux savoir sur quel bouton il a appuyé, quoi. Parce qu'on regarde comment filmer tout ça. Et puis, il se retourne, il me montre un truc au mur avec une petite cage en plastique et une clé pour l'ouvrir comme dans les trains, un peu, vous voyez, genre urgence. Et donc, il me dit, c'est là, il a appuyé là. Je dis, mais alors, comment il a fait? Il a ouvert. Il me dit, ah non, non, avant, il n'y avait pas la protection. C'est depuis qu'il a coupé le son qu'on a dû mettre ça. Et José n'était pas au courant. Voilà. C'est drôle, quand même. Encore une fois, que la fiction vient manger le réel et court après. Et puis, voilà, la boucle est bouclée.
Et sur ce point, je pense que José a l'art de donner un petit coup de coude ou mettre le pied dans la porte. On le voit d'ailleurs quand il rentre dans l'ascenseur. Donc il n'hésite pas, quand il faut, il faut. Et quand on est allé à Malte, j'aurais dû réviser avant de venir, mais il y avait un dossier confidentiel qui nous est arrivé entre les mains, c'est montré dans le film. Et c'est vrai qu'il y avait une conférence de presse parce que José était attendu. Donc ce dossier confidentiel, tout le monde courait après depuis un an à peu près. Et José, conférence de presse, donc qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il montre le dossier confidentiel. Et là, il y a un choc, les journalistes ne peuvent plus le cacher, et ça, c'est un coup de pied aussi, parce que d'autres députés auraient dit, bon, c'est confidentiel, on le met sous la table, on ne peut pas le montrer, quoi. Donc ça, c'est José qui ne comprend pas, il y a des mots autorité, confidentiel, j'ai eu beaucoup de mal à faire rentrer dans sa tête, et ça n'a pas marché.
Oui, il y a des questions sur le positionnement de José Bové sur sa notion de carrière au Parlement. Et il y a une phrase très explicite qui dit « Non mais José, ce qu'il aime bien, c'est le pas de côté ». Et c'est très joliment dit, et après ça a été acté. Le fameux pas de côté, c'est faire autrement et aller transgresser. Et vous avez dû vous opposer à la fois donc à ces lobbies, mais aussi au sein du Parlement, il fallait faire sa place. On voit bien quand vous demandez rendez-vous, quand vous voulez être entendu, ça galère. Et en même temps, étrangement, dans cette affaire, vous allez à la rescousse d'un adversaire politique, véritablement. C'est pas là la question, finalement. C'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a un complot, qu'il y a quelque chose qui est trouble et qui est faux. Et là, vous y allez à la défense d'un adversaire politique.
Oui, puisque c'est quelqu'un contre qui on se bat sur les OGM, sur tout ce qui est additif alimentaire, etc. Enfin bon, ouais, tous ces sujets santé et alimentation. C'est effectivement pour ça que je suis là. Donc c'est évident que je me retrouve confronté. Et au moment où il est viré, qu'on apprend vraiment de cette manière-là, qu'il est vidé sur une petite dépêche, on se dit c'est pas possible, parce qu'on le connaît, on l'a rencontré, on a débattu. Il nous a parlé aussi de son père, qui est mort du cancer du tabac, et ça fonctionne pas. Donc connaissant Barroso, et déjà un certain nombre de problèmes qu'il y a eu à la commission, c'est là, c'est pour ça qu'on décide. Et puis ce type n'est pas sympathique. Il n'est pas sympathique.
Non, pas forcément.
Parce que, on le dit à un moment dans le film sur cette histoire d'avions privés pour aller aux Bahamas, ouais. Moi je ne vais pas aux Bahamas tous les jours, quoi. Hein. Et puis il a été ministre des Finances ou de l'Économie à Malte, mais des Finances je pense. Il servait d'intermédiaire entre la Libye de Kadhafi et l'Italie. Tout ça est un peu trouble quand même. Mais ce n'est pas une raison. Sur ce truc-là, on est sûr, enfin, c'est notre intime conviction, que ce n'est pas possible. Et donc c'est comme ça qu'on rentre dans la fête, qu'on se retrouve en fait ensuite mêlé dans ce débat sur la directive tabac, puisque le but c'est de faire durer le plus longtemps possible le vote, d'éloigner le vote le plus longtemps possible pour pouvoir gagner encore beaucoup d'argent. Ça c'est le rôle évidemment des multinationales. Mais c'était pas notre sujet, la directive tabac. Il y a d'autres amis qui étaient sur ces questions-là, comme Michel Rivasi et beaucoup d'autres. Et donc voilà. Et donc nous, on rentre par effraction dans l'affaire, et en tirant notre fil, eh ben, on contribue à faire en sorte que ça puisse être voté à temps voulu, et entre-temps, on fait un peu le ménage parmi les pourris, quoi. Donc ça fait un peu western aussi, quoi. Mais c'est quand même règlement de compte à Hockey Coral, notre affaire.
Peut-être des questions à vous proposer. Si vous avez des questions à proposer dans le public, oui. Eh bien, c'est votre temps. Allez-y, prenez la parole. Bon, c'est toujours la première question qui est...
C'est la plus dure, mais ça va être simple. Depuis que tu as quitté donc, ton poste, comment tu vois maintenant le fonctionnement de l'Europe avec une von der Leyen qui a remplacé un Barroso? Quel sentiment maintenant? L'Europe est un peu plus loin pour toi, mais elle est quand même là, elle a été très forte.
Je suis en lien quotidien avec Jean-Marc, donc je suis l'actualité. Et quand il y a des... Et il confirme, donc parfois je demande des renseignements, et d'autres fois il m'envoie des infos. Et donc on est, c'est vrai, tous les jours en lien quasiment. Pour suivre ce qui se passe. Je dirais que les choses bougent. Alors, c'est bizarre parce que quand on dit ça, les gens ils nous disent vraiment que vous êtes des zéro VA. Mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure, on va voter dans quelques semaines. C'est pas pour rien que le film sort le 1er mai. Donc, c'est aussi un acte politique par rapport à ça. Et pour vraiment montrer que il y a des députés, c'est quelque chose d'important, et que quand on est élu au Parlement européen, on peut aussi avoir une efficacité, à la fois évidemment sur les textes, mais après ça dépend effectivement de comment se construisent les majorités. Donc ça c'est important aussi. Et c'est vrai que les défis, alors c'est bateau hein, de dire ça, mais c'est qu'en gros l'Europe se construit toujours dans les moments de conflictuels, et quand ça devient très tendu, c'est là que ça vend des nouvelles solutions, parce qu'il faut bien les sortir. Mais en même temps, on est devant des perspectives qui sont tout à fait étonnantes et à laquelle il va falloir répondre. Quand il va falloir vraiment rentrer dans le débat de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ça va modifier radicalement la PAC, par exemple. Sur la politique agricole commune, l'Ukraine, ça représente, je parle sous le contrôle de Jean-Marc, je dirais au moins un quart des aides PAC qui vont être distribuées à l'Ukraine, vu la surface agricole. Donc, et ça bouleverse radicalement. Donc, nos braves céréaliers du bassin parisien, ils vont apprécier que modérément. Donc là, on l'a déjà vu, c'est haro sur l'Ukraine. Sauf qu'ils sont en guerre, et s'ils sont envahis et que la Russie gagnait, évidemment, il faut tout faire pour l'empêcher. Mais ça veut dire que derrière, les pays baltes, j'aimerais pas être à leur place non plus. Et voilà, donc on est dans des situations de tension sur ce sujet-là, mais comme sur beaucoup d'autres, sur les questions économiques, on l'a vu sur l'agriculture, et puis après sur les conflits qu'on a sur des sujets de fond comme les pesticides. Donc voilà, mais c'est là-dessus. Donc aller voter, ça sert à quelque chose. Surtout que j'ai de bois compte. Et ça, quand même, il faut le dire. Hier soir, on avait un peu un sujet comme ça où on répondait à Gaillac. Et c'est ce qu'a dit Antoine tout à l'heure. Combien de fois en France on vote contre pour empêcher le pire, hein? Donc parfois on vote par défaut, et pas forcément au présidentiel ou même aux législatives avec notre système de vote tel qu'on l'a. Et bien en fait, si nos candidats ne sortent pas dans les deux premiers, ben, ils n'ont aucune chance. Donc on se retrouve à voter pour le moins pire. Ça ne crée pas de la démocratie, ça ne fait pas de l'envie politique, ça. Hein? Et après, on s'étonne que des gens ne vont pas voter, quoi. Donc ça, je pense que c'est un moment important de se dire. Et là aussi, il faudrait bousculer le système français, parce qu'on ne peut pas rester dans ce système majoritaire, monarchiste, républicain, enfin, tout ce qu'on a en Europe, quoi. Enfin, c'est mon avis à moi, quoi. Donc je suis pas très souverainiste, hein, tout ça pour dire.
J'ai une question relativement simple. Ce que j'ai senti dans ce film, il y a un élan pour la démocratie. Et je trouve ça vraiment superbe. Alors qu'actuellement, on vit quand même dans une situation, je veux dire, particulière. Et ma question, c'était, est-ce qu'il y a d'autres voies comme vous l'avez été quand vous étiez au Parlement actuellement?
Moi, j'y suis pas. C'est pas à moi de dire.
Oui, il y a effectivement toujours des députés qui s'impliquent énormément, qui ne sont pas forcément connus comme José l'est. Une des choses qui a permis en fait à José d'être efficace sur un dossier comme ça, c'est qu'il arrive aussi avec une très forte notoriété qui dépasse les frontières hexagonales, qui fait qu'il est connu en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Afrique. Son histoire fait qu'à ce moment-là, il peut intervenir comme il intervient. Ce que je trouve intéressant dans le film et le personnage qui est montré aussi, c'est celui de cette députée allemande, des députés de droite, et qui a fait, à l'endroit où elle était, de manière totalement différente de celle de José, mais qui fait avancer les choses, qui instruit le dossier sans arrêt. Je dirais qu'il y a les mêmes convictions démocratiques, de transparence et de respect des règles. Elle n'a pas les mêmes moyens que José, mais le fait que ces deux, plus Bart Staes, qu'on voit aussi, qui est un député du groupe des Verts, mais surtout Inge Grässle et José, parce qu'ils sont complémentaires, vont faire avancer le dossier. Et à la fin, ce dossier passe, et il est voté aussi massivement, c'est qu'il n'y a plus personne dans le Parlement qui ose voter contre, reprendre les votes de l'époque, que je n'ai jamais fait. C'est écrasante majorité, parce que c'est juste la honte enfin, c'est pas possible. Et sur beaucoup de dossiers, de manière pas aussi visible que José, il y a des députés qui se découvrent, qui le sont en arrivant, défenseurs du bien commun, et qui font un travail, moi je trouve, exemplaire. Alors, je ne veux pas cirer les pompes à José, parce qu'en plus, il a des chaussures qui ne sont pas cirables. Mais il y en a, je trouve que c'est assez incroyable de voir le temps passer par la plupart des députés pour faire avancer les dossiers au Parlement européen, et ensuite de passer samedi-dimanche. Moi, j'étais à mi-temps, en gros, hein, José, samedi-dimanche, il continue à travailler sur le terrain, ce que je ne faisais pas. Donc, je dirais qu'il y a quand même des fous qui sont prêts à passer un temps absolument colossal pour un collectif. Donc, le vote est vraiment là, puisqu'on est en période préélectorale. Hein, c'est vrai qu'on voit monter les extrêmes droites, en particulier dans pratiquement tous les pays européens, hein, qui arrivent au pouvoir. Et je pense que, justement, c'est se ressaisir. C'est considérer qu'ils sont loin d'être au pouvoir. Ils ont un projet européen aussi, hein, faut pas se leurrer. Ils sont plus du tout anti-européens, ils ont un projet européen. Et moi, j'ai pas de conseil à donner. Tout ce que je peux dire, c'est que cette députée allemande m'apparaît tout à fait responsable dans sa manière de mener son activité politique. Je vous ai mieux quand même. Hein.
Et José, tu expliques régulièrement dans les débats que ce qui est très très beau, du fait qu'il n'y ait pas la majorité dans l'hémicycle, les alliances doivent se faire dossier après dossier. Et on ne fait rien seul. Donc effectivement, il y a plein de députés qui s'agrègent les uns aux autres pour des combats de tous bords.
Oui, parce que comme on est à la proportionnelle intégrale, à moins de quelque chose de bizarre, pour l'instant ce n'est pas le cas, même avec cette poussée de l'extrême droite, un parti politique européen, pas les partis nationaux, mais les partis politiques européens dans lesquels tout le paysage politique se rentre, il n'y en a pas un seul qui peut être majoritaire à lui tout seul. Donc il faut 2, 3, 4 groupes politiques différents pour faire passer un texte. Donc à chaque fois, bah, il faut discuter avec les autres, et avec qui vous n'avez pas forcément des sympathies. Moi, je me rappelle avoir eu comme allié dans la commission agricole un représentant, alors c'était déjà les Républicains, ou le, je ne sais pas si c'était appelé déjà Républicains ou pas, enfin, peu importe, qui était un ancien responsable directeur de FDSEA d'un département. Puis ensuite, il est entré dans le cabinet de Barnier, quand il était à l'agriculture. Ce n'est pas franchement, a priori, la personne avec qui on aurait mené des combats. Sauf qu'en tant que gens qui étaient dans l'agriculture et qui connaissent, on était tous issus un peu de l'école économique française sur l'agriculture, c'est-à-dire la régulation des marchés, des prix, etc. Donc on était en fait sur cette idée-là. Donc globalement, par rapport aux autres Européens de droite ou sociaux-démocrates, on était opposés à beaucoup de positions qu'ils avaient. Et donc on pouvait se battre ensemble. Et comme c'était lui qui était le rapporteur de ça, à un moment il avait besoin de moi pour pouvoir pousser encore le bouchon pour les obliger à voter. Donc c'est très étonnant comment... Et ça, c'est vraiment l'Europe, quoi. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire, parce que ça permet complètement de voir les choses autrement et de ne pas être uniquement enfermé dans son couloir où on défend sa position, comme on est malheureusement à l'Assemblée nationale française, où chacun est dans son couloir. Parfois, la Commission fait des trucs bien, il faut le dire, quoi. Et toutes les batailles qu'il y a eu, par exemple, sur, parce que là, on n'en parle pas, mais ce n'est pas nous qui l'avons mené, mais ceux qui l'ont mené, c'était bien, on les a soutenus, sur tous les rapports aux droits de propriété intellectuelle, par rapport à l'indépendance des journaux, par rapport aux GAFA, etc. Ça, ce sont des batailles. Et je dirais, il n'y a qu'en Europe que ça se fait, cette bataille-là. Mais par contre, là, pour le coup, pour faire comprendre à des libéraux ou à des pirates du nord de l'Europe, partie des pirates qui sont pour tout libéraliser sans aucune contrainte de rien, c'est très compliqué, parce que notre notion à nous de défense de la culture, que ce soit le cinéma, le livre ou les journaux, on est quand même très gaulois là-dessus. Hein. Et je pense qu'on a raison, et qu'on va leur apprendre à le défendre, mais c'est compliqué. Hein, parce que c'est culturellement, là on a une vraie singularité. Je dirais que c'est un peu comme pour le cinéma.
Bonjour, Hélène Delmas, porte-parole de la Confédération Paysanne de la Haute-Garonne. Monsieur Beauvais, je vous félicite pour votre engagement. C'est ce qui m'a aussi poussé à devenir paysanne et à m'engager à la fois syndicalement et politiquement, puisque je suis aussi maire de mon village. Je vous remercie, vraiment. Par contre, est-ce que vous pensez vraiment que l'Europe peut aider les paysans, en sachant tous les reculs qu'il y a actuellement sur les pesticides, sur les OGM, pas de plafonnement des prix? Les traités de libre-échange qui sont signés, qui continuent à être signés, au détriment des paysans. La récupération politique des mouvements auxquels on a participé, qui sont récupérés actuellement par l'extrême droite. Et ce qu'on entend aujourd'hui chez les agriculteurs, c'est on n'est plus entendu, on n'est plus représenté. Il n'y a que l'extrême droite qui peut être la solution. Je fais exprès de provoquer, mais...
Je te donne mon avis, mais... Peut-être que Jean-Marc, parce que qui est assistant d'un député paysan, donc oui, après ma suite, hein, ça serait, il peut peut-être déjà répondre de son sentiment aujourd'hui, quoi.
Soit positif, hein.
Il est insupportable, mais on se voit moins, on se téléphone beaucoup, mais on se voit moins, donc ça va. c'est un humour étrange, hein. J'ai travaillé avec José, j'allais dire pour, mais c'est pas vrai, c'est avec José pendant de nombreuses années, y compris à la Confédération Paysanne avant de me retrouver au Parlement européen, donc j'ai passé 10 ans avec José. À l'heure actuelle, je travaille avec Benoît Biteau, qui a repris, je trouve, de manière extrêmement efficace et élégante, avec des moustaches aussi, les combats de José. C'est un personnage qui marque, qui a réussi aussi à trouver sa place au niveau du Parlement européen, ce qui est pas évident, qui arrive à convaincre au-delà de son groupe politique, mais au final, les Verts au Parlement européen, je dirais une partie des sociaux-démocrates, mais on va prendre les Verts, ce que je connais le mieux, représentent 8% des députés européens, donc je dirais on en a pour notre argent, on est en démocratie. Et sur les grandes décisions et les grandes tendances qui peut y avoir par rapport au climat, par rapport à l'agriculture, par rapport à la question de l'eau, qui est centrale et sur laquelle Benoît est un excellent pédagogue et un très fin connaisseur, on a 8% à peu près de nos propositions. Donc tout ça ramène au fait que, au final, c'est la politique qui décide. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant très longtemps une défiance du mouvement social par rapport aux politiques. Par exemple, José, tu reconnaîtras que tu as aussi été critiqué par certains en disant, moi, ça y est, il est passé de l'autre côté, il est en politique maintenant, comme si c'était quelque chose de pas propre, sauf qu'au final, ceux qui votent, c'est ceux qui appuient sur le bouton. Et donc, on en revient, on en a pour 8%, et s'il y a plus de députés écologistes dans les années qui viennent, on en aura pour un peu plus, et c'est comme ça que ça avance. Je dirais que pour nous, je vais être court là-dessus, je pense qu'on est face aussi à des mouvements politiques qui ne s'embarrassent absolument pas de la vérité ou des problèmes des gens qui ont une expression purement dogmatique, purement, on peut dire, politique, contre les migrants, contre toutes les problèmes que les écologistes peuvent leur causer. Je parle de l'extrême droite. L'extrême droite sont très très forts, ils sont très habiles. Et je crois qu'on est à un moment où il faut se remobiliser, plutôt que de baisser les bras, se remobiliser pour empêcher qu'ils soient plus nombreux que ce qu'ils sont au Parlement européen. Donc ce film, je trouve, s'inscrit dans cette démarche. Et si vous êtes intéressé aussi, sachez que le Parlement est extrêmement transparent. Tous les votes de tous les députés sont facilement accessibles. Et quand on voit certains votes du Rassemblement national au Parlement européen sur les questions agricoles, ce qui fait peur, c'est la différence entre leur démagogie sur le terrain et leur pragmatisme au niveau européen. Mais ça, c'est compliqué de l'expliquer. Largement, quoi. Ils ont une machine de propagande qui est extrêmement forte.
Alors moi, je reprends un peu, en gros, depuis 2009. En 2009, on a eu à un moment une chance historique. On a eu une fenêtre de tir pour réformer la PAC qui n'avait jamais existé avant et qui, depuis, s'est éteinte. C'est quand la Roumanie a nommé comme commissaire, et avec le choix de l'agriculture comme commission, Dacian Ciolos, qui était un agronome qui avait fait ses études en France, qui connaissait très bien le milieu agricole, sa famille venait de là. Et quand il est arrivé à la Commission européenne en 2009, il est arrivé avec un projet radical de réforme, aussi bien sur les questions des plafonnements que sur les pratiques agricoles, sur... Vraiment, on était complètement en phase et on se voyait régulièrement, il était très proche de beaucoup de mouvements, il était très proche du responsable agricole des Verts, Hannes Lorentzen, avant même que ça, qu'il soit nommé commissaire. Donc on s'était vu à Porto Alegre, il était au Forum social, donc on était en phase. Et donc lui est parti avec une proposition qu'il a lancée d'abord par Internet, et il y a eu des débats ensuite à Bruxelles, où on s'est retrouvé avec en carrefour pour construire le projet. Donc là, on était vraiment très bien parti. Et puis moi, en parallèle, j'étais sur le dossier, on m'avait demandé de faire le dossier, de porter le dossier sur la répartition de la plus-value dans la chaîne alimentaire. Donc c'était pas mal non plus. Donc on avait sorti avec Jean-Marc et Michel tout un dossier qui montrait bien les rapports de force et comment se construisait cette répartition de la plus-value. Donc on avait plein d'éléments qui avançaient. Et puis là, petit à petit, on a vu arriver les lobbies à l'intérieur même déjà de la commission. Il n'était pas forcément soutenu par tout le monde. Et puis on a vu arriver les fédérations et les coopératives européennes à travers le COPACOGECA. Et puis c'est là qu'on se rend compte que le COPACOGECA, donc ce qui est une grosse structure, vous voyez la FNSEA, puissance 27 pays, quoi. Mais dont les cadres salariés commencent là et terminent à la Commission européenne. Sont embauchés comme les cadres de la FNSEA sont embauchés au ministère de l'Agriculture et de Varenne. C'est le même système. Donc on est sur un système complètement figé c'est de la co-gestion pure et dure, quoi. Et puis on avait arrivé les lobbies de l'alimentation, des compagnies, des semenciers, et petit à petit tout le travail qu'avait construit Ciolos, boum, boum, boum. Ça s'est dégringolé et on s'est retrouvé à voter une réforme qui était mieux que ce qu'il y avait avant, mais qui était quand même pas grand-chose, quoi. Et au fur et à mesure que les années passent, eh ben, quand il a fallu recommencer la nouvelle réforme, donc pour celle qui est aujourd'hui commune, eh ben, tout s'est effondré. Et donc le dernier combat que j'ai pu mener, qui était vraiment à leur dos au mur, avec un soutien égal à peu près à zéro, ça a été qu'on ne vote pas la réforme avant les élections de 2019. Et donc on est arrivé à faire reporter l'élection pour que ce soit le nouveau Parlement qui vote. Et là, bam, évidemment, ça n'a pas été en s'améliorant, vu les rapports de force. Et ça, c'est redoutable. Et ce qui se passe actuellement, quand la commission, il suffit de 3 manifs à travers le pays, co-organisées par le COPACOGECA, évidemment Madame Lambert à la tête du COPACOGECA, on se retrouve dans une situation, oui, parce qu'il faut quand même dire que c'est elle, hein, on se retrouve dans une situation où les États grimpent de suite pour dire il faut réformer, c'est pas acceptable la PAC telle qu'elle est, surtout sur le volet environnemental, la paperasserie, bon ça va que 5 minutes, et puis après derrière la commission dit on va tout changer, et les partis politiques du Parlement disent ah ben, évidemment il faut tout changer et revenir en arrière. Donc toutes les avancées bonnes et souvent maladroites en fait sont détricotées, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une lame de fond qui puisse durer longtemps. Ils sont en train de détricoter. Il va falloir quand même pour 2027, si je pense bien, refaire la nouvelle PAC. Ça va être l'occasion. Mais c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour 2027. Il ne faut pas qu'on attende... Et ça, c'est un peu le tort que... C'est ce que je pouvais reprocher à la fois au mouvement associatif, mais aussi à la Confédération paysanne. Alors, c'est obligé, hein, parce que tout le monde n'a pas que ça à faire non plus, hein. C'est pas la défense quotidienne des paysans, mais si on s'en occupe pas en amont, très en amont du débat de 2027, du lancement de la... Parce que c'est avant, c'est 2-3 ans avant que ça va se discuter, quoi. Dès après les élections, on va partir sur la prochaine réforme. Et donc c'est dès le début des négociations qu'il faut être... C'est pas une fois que le texte est sorti qu'on dit on n'est pas d'accord et qu'on fait une motion. Donc je dirais que la question de la politique agricole, comme plein d'autres dossiers, elle doit être prise très en amont et très au sérieux. Et comme c'est quand même le cœur de l'avenir des paysans, ça doit être un sujet prioritaire, quoi. Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient à la conf, et puis ailleurs dans les associations, mais qui, voilà, qui suivent au quotidien tout ce qui se met en route. Et puis vraiment, c'est là qu'il faut y aller, quoi. C'est pas au moment où c'est voté. Au moment où c'est voté, c'est déjà trop tard depuis 3 ans, quoi. Alors, c'est pas pour dire que c'est désespéré, mais c'est juste prenez qu'il faut le faire au moment et puis dénoncer les trucs quand ça sort, quoi. De suite. Là, il faut balancer, quoi.
En sachant qu'entre-temps, on a les élections chambre.
Pardon ?
Et entre-temps, on a les élections chambre.
Et voilà. Donc là, il faut monter en puissance pour les élections chambre. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de paysans qui vont pas du tout être d'accord avec la façon dont ça s'est terminé et comment la FNSE a récupéré, quoi. Donc là, ils vont faire des grandes photos et refuser de voter avril. Tu vois, bon, je dis c'est vrai parce que le patron de la FNSEA, c'est le patron de la boîte d'avril qui a aussi le Sieur et plein d'autres marques, qui est une crapule finie, quoi. Mais on revient à la situation logique, c'est que les céréaliers, c'est eux qui tiennent toujours la FNSEA. Quand ils mettent un éleveur, c'est vraiment pour faire semblant, quoi. Donc, refusons de voter avril, je sais pas, il faudrait inventer des slogans autour de ça. Hein? Avril est à vos portes, tu vois. Bon, écoute, si vous voulez une agriculture paysanne, refusez de voter le Sieur. Les gens, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, on va inventer des conneries, quoi. Moi, c'est dommage. J'ai passé l'âge, mais... on peut s'amuser, quoi, encore.
On va peut-être prendre une dernière question.
Alors, merci d'être présent, José. J'ai une question un peu polémique à te poser, mais je sais que tu n'évites pas le débat, donc j'en profite. Est-ce que ça ne pose pas la question des limites de l'action politique que de la négociation, puisque vous avez parlé plusieurs fois qu'il faut des rapports de force. Donc dans l'hémicycle, ça paraît pas très favorable. Donc est-ce qu'il ne faut pas garder une forme de radicalité? Parce que je lis dans le journal de la Gazette qui présente le film, José Bové, décrit plus haut comme teigneux, semble assagi, définitivement rattrapé et comme engourdi par la réelle politique et la social-démocratie, la recherche d'un consensus mou qui permettra juste de ne pas empirer les choses. Bon, c'est l'article qui présente ça, mais on voit bien que tu as fait le maximum au Parlement avec les moyens que tu avais. Mais est-ce que, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est, et ça fait le lien avec les élections à venir, c'est qu'est-ce que tu retrouves de tes valeurs radicales dans la candidature de Carole Delga en particulier, puisque j'ai compris que tu soutenais sa candidature. Donc j'aimerais bien savoir comment tu te retrouves dans son mouvement. Et ensuite, la deuxième chose qui est plutôt locale et qui est quand même très très aiguë ici, c'est qu'est-ce qui se passe pour la 69 ouais. Quel est ton point de vue sur la 69? Parce que là, pour le coup, le lobbying semble plutôt du côté de Pierre Fabre. Merci.
Bon, alors tout ça, c'est très facile à répondre. Hein. Je n'ai pas de souci avec tout ça. Aux dernières élections régionales, clairement, j'ai appelé à voter pour Carole Delga au premier tour, pour les régionales. Mais dès le premier tour, j'ai pas eu de soucis. Parce que j'ai trouvé que mes copains s'avaient merdé, qu'on ne peut pas être dans un exécutif à un moment, et puis la fois d'après, faire comme si ça n'avait pas existé, et surtout virer ceux de l'exécutif qui faisaient partie du mouvement, et qui sont virés parce qu'ils se présentent, ils disent bah, « non, juste on va continuer cette annonce puisque ça a fonctionné ». Donc faire ça, c'est con. Donc à partir de là, ça m'énerve, et j'ai dit bah, « puisque c'est ça, dès le premier tour, moi, je le dis comme je le pense. » Mais au moment où je dis ça, on fait une conférence de presse ici à Toulouse et on dit, voilà, on a deux problèmes et ça ne va pas le faire du tout. C'est la 69 et le TGV. Et on fait une conférence de presse et on nous dit, nous, on veut aller au vote là-dessus. Bon, on a bien vu que ça ne s'est pas fait. Mais nous, moi, je n'ai pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que j'ai des désaccords. Mais je peux m'allier avec quelqu'un, j'ai des désaccords, et si j'ai des désaccords, je lui dis que j'ai des désaccords. Et même dans une campagne. Et je sais qu'elle n'était pas très contente de cette histoire-là, n'empêche qu'on l'a fait comme ça. Et moi, on ne va pas m'enlever ça. Tu vois. Moi, je n'ai jamais été adhérent à un parti, donc il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai toujours mon slogan, un homme de parti n'est qu'une partie d'homme. Et donc ça, je ne sais pas faire, d'être me couper en morceaux. Mais ça ne m'empêche pas d'assumer des choix. Parce qu'à un moment, il faut faire bouger les lignes. Et j'aimerais pas avoir ni le Rassemblement National, parce que vous n'êtes pas en Languedoc ici. Hein. Mais Languedoc, c'est chaud. Hein. Hein. Et si aujourd'hui, on ne bascule pas, c'est parce qu'il y a quelques départements, plutôt du côté de Midi-Pyrénées, qui résistent. Hein. Il faut quand même se le dire. Hein. C'est pas génial quand même. Et donc, on est dans une région, hein, si vous baladez dans le Gard, dans les PO, dans l'Aude, et dans l'Hérault, bah, il y a des fois, on a un peu peur, quoi. Hein. Donc nous, on est plus blanc dans l'Aveyron. Hein, donc on est toujours au centre droit, donc on risque moins. Tu vois. C'est des conservateurs, donc il faut bien avoir des conservateurs parfois, même si on ne trouve pas ça très radical, mais c'est moins pire, quoi. Donc voilà, moi j'ai assumé ce que j'ai fait, tu vois, là-dessus. Et puis sur l'autoroute, eh ben, je me suis engueulé 20 fois, voilà. Et c'est toujours pas ma position, et je trouve ça complètement con, quoi. Hier soir, on était à Gaillac, il n'y avait pas de soucis, quoi. Hein? Mais on en a d'autres soucis qui vont nous tomber sur l'eau. Hein? Sur la tête, c'est l'eau. Hein? Parce que des civils, on risque d'en avoir d'autres. Hein? Moi, je vous dis, enfin, à mon avis, aujourd'hui, ça va être, on risque d'avoir des gros soucis sur la gestion de l'eau dans cette région. Hein? Parce que là, les mecs du Tarn-et-Garonne, je les aime pas bien, quoi, tu vois, au niveau paysan. C'est pas top, quoi, tu vois, et puis ils sont pas très loin du Lot-et-Garonne, et donc tout ça est en train de grignoter. Hein. Donc il y a des vrais fachos, là, hein. Faut le dire, et les appeler comme ils sont. Donc voilà, donc après, que des mecs soient influencés par quelques partis dits de gauche plus radicales pour dire qu'on s'adoucit, moi, ça, j'en ai rien à foutre, toi. Le lit même pas, ça m'intéresse pas, mais ça me fait marrer, quand même.
Merci. Juste, je prends la responsabilité du portrait qui était dressé dans la Gazette d'Utopia. Et c'était presque, ça aurait pu être une question plus pour Antoine Rimbaud, puisque finalement, c'est le portrait que le film dresse au départ de, d'une figure qui serait José Bové et qui. Les héros pouvant paraître fatigués et se réveillant lyonnais.
Je crois que le José Bové teigneux, là, parce que j'ai entendu ça dans l'article. C'est un malentendu, c'est une espèce d'image d'épinal fabriquée par les médias qui n'a pas grand-chose à voir avec le José que j'ai rencontré. Et moi, ce qui me fascine et qui est dans le film, c'est le sourire qu'il a et la sérénité et la sagesse, je dirais même, moi j'en fais peut-être un peu trop, mais et dans ses combats, c'est-à-dire qu'il va au conflit, ça c'est sûr qu'il n'a pas peur du conflit, mais en même temps, il garde cet optimisme, quoi. Voilà, pour moi, c'était très important qu'il y ait ça dans le film. Mais il m'a suffi de rencontrer José, de l'écouter et puis de lui présenter Bouly, qui a aussi très bien ressenti, capté et trouvé son chemin pour incarner ça. Voilà, si c'est ça la critique. Voilà.
Je suis quelque chose toute petite.
Attends.
Non, mais c'est bon, toujours.
Mais non,
c'est
non, pas non bon. Il faut un micro pour que ça s'enregistre. Comme ça, c'est repéré.
Une question pour José Bové. Est-ce que tu fumes encore?
Je vois pas, parce que c'est pas parce qu'on fait un film contre le lobby que je me suis arrêté dans. Sinon, ça ferait vraiment trop lèche-cul, quoi. Donc, c'est juste pas possible.
Et puis, on n'a rien contre les fumeurs. On peut pas grand-chose hein, pour les fumeurs. Donc voilà, tout le monde fume dans ce film, enfin beaucoup, parce que c'est aussi un marqueur d'une époque, et j'espère que dans 10 ans, ce sera très curieux de voir ces films où on fume tout le temps, parce que le mouvement est lancé, là, on fume de moins en moins, ça y est, les générations qui arrivent fumeront bientôt plus. Bien, merci là, infiniment. Si vous en voulez plus...